Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
Le Nigeria enregistre une faible participation des femmes aux postes électifs et nominatifs, malgré la politique nationale sur l'égalité des genres, qui recommande une représentation plus inclusive des femmes avec au moins 35% des postes dans la fonction publique. Selon le Centre national pour le développement des femmes, la représentation des femmes en politique est d'environ 7%, ce qui est bien en deçà de la moyenne régionale africaine de 23,4%. Cette année, le nombre de femmes élues a même diminué. Ainsi, les Nigérianes dénoncent leur faible représentation au sein des institutions fédérales, tandis que des experts estiment que la réticence des hommes à partager le pouvoir est une entrave au développement du pays. Suivons ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour Maureen Dariat, entrepreneur et activiste, le Nigeria vient de faire un pas en arrière sur le plan politique, car beaucoup moins de femmes ont remporté des sièges lors des récentes élections générales et présidentielles.
C'est la participation la plus faible que nous n'avions jamais des femmes. Parce que même le nombre de femmes députées que nous avions avant l'Assemblée nationale ne sont pas revenues. Elles n'ont peut-être pas réussi durant les primaires ou elles n'ont même pas obtenu le ticket de leur parti. Donc, la participation des femmes à ces élections a été très mauvaise.
La faible participation des femmes aux postes électifs et nominatifs est une préoccupation croissante pour de nombreux Nigériens, alors que la moitié de l'électorat et de la population est composée des femmes. Faith Mwadiji est directrice du Centre pour la transparence.
Lors des congrès des partis où ils choisissent leurs candidats, vu la quantité d'argent qui est dépensé, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui veut être sur les tickets d'un parti qui puisse dépenser de telles sommes. Les gens n'étaient pas payés en naira, mais en dollars. Un autre aspect, c'est de l'achat de votes. C'est une chose d'être sur le ticket d'un parti, mais c'est une autre chose de devenir candidat.
Pour certains Nigériens, c'est aussi un rappel des nombreux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans ces grands pays d'Afrique de l'Ouest. Naobi, directrice Action Aid Nigeria.
Nous sommes dans ce combat depuis. Nous avions eu du mal à faire examiner les projets de loi sur le genre, les 5 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale et comment la Chambre des représentants a juste décidé de les jeter par la fenêtre. Le Sénat lui-même avait ses propres réserves et il y a eu un tollé dans le pays pour quelque chose qu'on pensait être simple car c'est une préoccupation de 50% de la population.
Une seule femme a occupé l'un des 4 postes les plus importants du pays. C'était un mandat de 5 mois seulement au perchoir de l'Assemblée nationale en 2007 avant d'être destituée. Aujourd'hui, 5% des législateurs fédéraux sont des femmes, l'un des taux les plus bas de représentation à l'échelle mondiale. En mars 2022, les femmes ont protesté à plusieurs reprises devant le Parlement fédéral d'Abuja contre le rejet par le Parlement des projets de loi pour l'égalité. Un de ces projets prévoyait la création de sièges supplémentaires pour les femmes dans les parlements nationaux et des États, ce qui n'a jamais pu avoir lieu. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Dr Fadji Zaouna Maïna est chercheur associé au laboratoire de sciences hydrologiques du Centre de vol spatial Goddard de la NASA. L'hydrologue d'origine nigérienne a notamment travaillé sur le développement de modèles mathématiques pour résoudre les problèmes de ressources en eau en Californie, en France et en Italie. Elle plaide en faveur de l'éducation des filles et de l'émancipation des femmes en Afrique. Dans cet entretien avec Nani Talani, Fadji Maina raconte son parcours.
Donc, avant d'arriver à la NASA, je suis née, j'ai grandi au Niger. J'ai fait mes études au Niger jusqu'au baccalauréat. Et après, j'ai dû quitter le Niger parce que tout simplement, dans ma ville, il n'y avait pas d'université. Je viens de Zinder et je suis partie faire ma licence. Et c'est après, parcours de licence au Maroc, de master et de doctorat en France, que j'ai atterri aux États-Unis. J'ai fait 2 ans aux États-Unis en train d'étudier des ressources en eau. Et après, j'ai atterri à la NASA. Donc, avant de la NASA, j'ai été dans plusieurs pays et plusieurs villes pour étudier jusqu'au doctorat.
Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites exactement à la NASA?
Donc, ce que je fais à la NASA, c'est comprendre les effets du changement climatique et des pratiques telles que l'agriculture sur les ressources en eau. Et pour ça, nous utilisons des données satellitaires parce qu'on parle de la NASA, bien évidemment, et aussi des modèles mathématiques. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment notre eau, nos ressources en eau aujourd'hui évoluent sur Terre.
Vous avez dit que vous avez parcouru beaucoup de villes avant d'arriver à Washington où vous travaillez à la NASA. Donc cela signifie que vous avez un parcours professionnel qui n'a pas commencé à la NASA. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel avant que vous n'arriviez à la NASA?
Quand j'avais fini ma thèse de doctorat en France à l'Université de Strasbourg, j'ai quitté la France pour aller en Italie. Et j'ai fait 1 an de recherche postdoctorale en Italie à l'École Polytechnique de Milan. Et cette expérience m'a permis en gros de comprendre comment on peut utiliser des modèles mathématiques pour comprendre les ressources en eau. Et ensuite, j'ai compris que, en fait, pour bien comprendre les ressources en eau, on a besoin aussi d'intégrer des satellites. Et en ce sens, je me suis dit, bon, si on parle des satellites et tout, on parle des États-Unis, j'utilise des modèles mathématiques, donc tout ce qui est informatique, les États-Unis sont bien avancés. Et c'est en ce sens que je me suis intéressée aux États-Unis. Et quand je suis arrivée aux États-Unis en 2018, j'ai atterri en Californie, à Berkeley, au Lawrence National Laboratory. C'est un laboratoire du département de l'énergie qui est géré par l'Université de Californie. J'ai fait 2 ans et demi là-bas où j'ai vraiment utilisé des données satellitaires et des super ordinateurs pour pouvoir comprendre comment le changement climatique affecte aujourd'hui la Californie. Et c'est après cette expérience que j'ai pu atterrir à la NASA.
Est-ce que vous rêviez de travailler à la NASA? Quelles étaient vos aspirations professionnelles quand vous étiez enfant?
Donc, quand j'étais enfant, j'étais très curieuse, bien sûr, et j'aimais bien les études. Pour moi, les études, c'était passionnant. J'étais un enfant qui aimait juste étudier, faire des équations, enfin, des petits calculs et tout. C'est comme ça que j'ai grandi. Donc, je m'intéressais à la science et je me posais beaucoup de questions parce qu'il y avait des questions qui étaient sans réponse. Et je me disais, ces questions, s'il y a quelque chose qui se passe autour de nous, en gros, on peut pas ne pas avoir des réponses à ces genres de questions-là. Donc ça, ce comportement, je savais pas que c'était de la science, en fait. Parce que je viens du Niger, c'est pas un contexte où on connaît des scientifiques, où la science est en elle-même un métier aujourd'hui. Donc c'est plutôt cette curiosité d'enfance et ce désir d'apprendre qui m'a poussée aujourd'hui à être dans la science. Et bien évidemment, quand on regarde les films américains et tout, on voit la NASA, on voit toutes les recherches que la NASA fait, on en rêve, bien sûr. Mais je dirais que la jeune fille du Niger ne savait pas que ça, c'était une carrière pour elle.
Vous faites bien de mentionner les sciences. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les sciences et la NASA ne fait pas exception. Y a-t-il des défis particuliers à relever en tant que femme à la NASA?
Il y a beaucoup de défis, je dirais, à relever. Bien sûr, parce qu'on n'est pas encore à égalité avec les hommes. Aujourd'hui, dans la population du monde, on est 50% d'hommes et 50% de femmes. Et d'un seul coup, quand on arrive dans une institution, dans la recherche même en général, on trouve plus ces jeunes filles. Alors que ces jeunes filles, c'était les meilleures du lycée et c'était les meilleures du primaire. Elles disparaissent tout d'un coup au cours du chemin. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on change pas parce qu'on a juste besoin d'avoir des jeunes filles aujourd'hui. Il faut qu'on change ça parce qu'on a besoin de la perspective de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on traite des sujets qui intéressent tout le monde. On parle de notre univers, on parle de notre terre, on parle de nos ressources en eau. Donc, il n'y a pas que les hommes pour faire toutes ces choses-là. Donc, on a besoin de femmes. Donc, l'idée est de devoir créer un environnement que ces femmes aujourd'hui puissent être dans un endroit sûr et un endroit qui leur permet bien sûr de faire une carrière dans la recherche scientifique.
En parlant des femmes qu'il faut encourager, alors quel conseil donnerez-vous à une femme qui est réticente à l'idée d'étudier les mathématiques à l'université ou de faire une carrière scientifique?
Je dirais que c'est que en général on dit ah c'est pas pour nous parce que c'est abstrait, on voit pas trop l'intérêt d'étudier les mathématiques. Mais il faut se dire que en tant que femme aujourd'hui, on est curieuse, surtout en tant que femme. La femme c'est celle vraiment qui s'intéresse aussi à sa famille, hein, qui s'intéresse à l'humanité. Donc je lui dirais que c'est possible. Hein, il y a pas de genre dans les mathématiques. La science ne connaît pas de genre. Notre cerveau ne connaît pas de genre. Donc il faut bien y aller. Elle peut le faire. Et puis, il faut qu'elle sache aussi qu'on a besoin d'elle. C'est pas qu'elle le ferait juste pour le faire, mais c'est toute une humanité qui a besoin d'elle pour pouvoir avancer.
En parlant de l'humanité, elle a célébré la Journée internationale des mathématiques. L'idée, c'est d'atteindre l'égalité entre l'homme et les femmes, autonomiser les femmes et les filles dans cette discipline. Pourquoi y a-t-il peu de femmes qui embrassent les mathématiques ou le domaine scientifique?
Parce que ces femmes ont... On leur a dit, c'est pas leur domaine, parce que l'histoire a démontré avant, si on regarde aujourd'hui, maintenant on est en train de faire un progrès, on va pas négliger qu'on a fait un gros progrès dans le sens où scientifique ne veut pas nécessairement dire homme, parce que dans le passé, c'était un monde qui est masculin. Aujourd'hui, ce monde masculin aussi n'était pas prêt à recevoir des femmes. Donc, on parle d'un environnement qui était en lui-même hostile aux femmes. Et certaines femmes ont gardé cette idée, ont eu cette idée que la science n'est peut-être pas faite pour eux parce qu'on n'est pas dans le domaine masculin. Donc, changer, accommoder pour que cet environnement, même s'il est masculin, accueille les femmes à bras ouverts et dit aux femmes que vous êtes les bienvenues aujourd'hui ici, ça, c'est quelque chose qui va leur permettre de mieux s'intégrer. Et aussi arrêter de penser que juste les mathématiques, c'est les hommes et la biologie, c'est pour les femmes ou quelque chose comme ça.
Donc, vous pensez que la parité homme-femme dans les STEM, STEM, c'est donc l'acronyme pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, vous pensez que cette parité est possible?
Elle est possible et on a besoin d'elle. Donc, on a besoin de cette parité et on va y arriver. Parce que sans cette parité, il y a beaucoup de problèmes sur Terre qui ne seront juste pas résolus. On a besoin de cette parité pour améliorer tout simplement nos vies. Donc, on doit la faire.
En parlant de parité, ça nous ramène à votre lieu de travail où vous côtoyez sur vos quotidiens les hommes. Quels sont les rapports que vous avez avec vos collègues hommes? Comment vous traitent-ils en tant que femme, mais aussi femme africaine, femme noire?
J'ai vraiment eu la chance d'avoir des collègues qui soutiennent trop les femmes. Parce que il faut voir que quand on rentre dans la science, même quand on commence à faire un doctorat en science, on est dans un environnement qui est purement masculin. C'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui que les hommes comprennent qu'on a besoin d'une parité et que les hommes comprennent que cet environnement a été fait pour eux. Donc, ils doivent accueillir. C'est leur devoir aujourd'hui d'accueillir les femmes. Si j'avais pas eu cette chance d'avoir des encadrants qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont fait comprendre que c'est ma place, même si ça n'a pas l'air d'être, c'est ma place et je peux faire, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas eu cette chance. Donc aujourd'hui, il faut en parler pour dire aux gens. Quand on voit une femme aujourd'hui aussi qui arrive à faire certaines choses, c'est en quelque sorte parce qu'elle elle est dans un environnement où les hommes respecte cette femme-là et les hommes lui permettent de démontrer ce qu'elle peut faire de meilleur. Donc je dirais, moi, pour ma part, j'ai vraiment eu la chance et je continue d'avoir la chance d'avoir ces hommes-là qui soutiennent trop les femmes, qui veulent voir beaucoup plus de femmes en STEM. Et c'est uniquement dans ces endroits qu'une femme, en fait, peut arriver et peut démontrer l'excellence.
Donc vous parlez des hommes qui vous ont guidé dans la vie.
Oui.
Y a-t-il eu aussi des femmes qui ont été là pour vous, qui vous ont coaché dans votre vie scolaire ou votre vie professionnelle? Des femmes qui vous ont servi de modèle?
J'ai travaillé avec très peu de femmes. Quand j'étais à Berkeley, je travaillais avec une femme. Et quand j'étais en Italie, j'avais une deuxième femme qui m'a aidée, qui m'a coachée. Mais en gros, aujourd'hui, on est dans un environnement où il y a presque que des hommes. Mais les femmes aujourd'hui, même si pour moi, même si je les retrouve pas dans mon monde professionnel, elles sont pas nombreuses dans mon monde professionnel. J'essaie de voir dans certains mondes professionnels, par exemple, il y a des femmes qui sont célèbres, des femmes africaines, ou même la femme africaine qui est au foyer des fois. Sa façon de voir les choses, sa détermination, sa passion, son désir d'aider les enfants, tout ça, c'est quelque chose qui peut m'inspirer et que je peux appliquer à la science. Même si aujourd'hui, je ne vis pas dans un monde où je suis nécessairement entourée de femmes, aujourd'hui, je travaille avec très peu de femmes dans mon milieu.
Alors, que direz-vous aux hommes qui vous suivent maintenant, ces hommes qui peuvent être en Afrique, en Europe, n'importe où, qui ont des enfants, qui ont des filles, qui ont certainement des positions, des décideurs peut-être? Que pouvez-vous leur dire pour faciliter l'accès aux sciences en faveur des femmes?
Que les hommes comprennent d'abord que le monde scientifique, comme je l'ai dit, n'est pas ouvert aux femmes. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit eux-mêmes, et ils ont la clé de ce monde-là. Ils contrôlent ce monde-là. Et quand tu as la clé et tu as le contrôle de quelque chose, tu peux faire ce que tu en veux. Et si tu décides d'ouvrir cette porte à beaucoup plus de personnes, tu vas le faire. Donc à ces hommes-là, de soutenir les femmes et de penser que ces femmes-là, même si c'est une autre femme, c'est peut-être ma fille demain qui va vouloir faire une carrière scientifique. Et ma fille a besoin d'avoir un environnement qui est sûr, un environnement qui va l'accueillir. Et de comprendre aussi à ces hommes-là qu'aujourd'hui, on a le changement climatique dans le monde, on a pas mal de maladies, on vient de faire face à la COVID-19 et toutes ces choses-là, ce ne sont pas uniquement les hommes qui peuvent trouver des solutions à tous ces problèmes. Donc, on a vraiment besoin des femmes et c'est pour leur intérêt aussi.
Donc, aujourd'hui, vous êtes l'une des femmes modèles. Vous êtes l'un des modèles auxquels beaucoup de jeunes filles aujourd'hui veulent s'identifier. Donc, il y a certainement cette petite fille, cette étudiante, cette élève, cette collégienne en Afrique qui vous suit en ce moment, qui rêve aussi de travailler à la NASA. Que direz-vous à cette fille ou à cette femme?
Je lui dirais de travailler dur parce qu'on ne sait jamais où le travail bien fait peut nous amener. Elle a le droit de rêver. Parce que moi-même, quand j'avais 20 ans, plus de 20 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'allais être à la NASA. Tout ce que j'avais le peu que j'avais de la jeune fille africaine qui a grandi à Zender, c'est que ça que j'ai utilisé. Donc, faire un travail qui est bien, croire en soi-même et se trouver surtout des alliés, se trouver cet environnement qui va l'accueillir, parce qu'il suffit juste d'une personne pour bloquer la carrière d'une personne. Donc, trouver un environnement qui nous accueille et travailler dur, mettre vraiment du sérieux dans son travail, parce qu'on ne sait jamais là où ça va nous amener.
Donc, c'est ça la clé de votre succès.
Ouais, je dirais, parce que c'est certaines choses que j'ai faites, honnêtement, ça dépassait mon horizon quand j'étais jeune. Ça dépassait nettement mon horizon. Mais le travail aujourd'hui, le sérieux qu'on met dans notre travail, c'est comme si on se met dans un vol, on ne sait plus là où ça va nous amener.
C'était l'hydrologue nigérienne Fadji Zaounamaina. La jeune journaliste congolaise Liliane Safi Charanguza est engagée dans le web activisme et spécialement la lutte contre les violences basées sur le genre sur Internet. À travers la blogosphère gomatracienne ou Blogoma, une structure de jeunes blogueurs de Goma dans le Nord Kivu, elle renforce les capacités des femmes journalistes et leaders d'opinion sur la sécurité numérique afin de mieux lutter contre les violences basées sur le genre. Les détails avec notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
L'objectif de Liliane Charanguza est que tout le monde, spécialement les femmes, accède proprement à Internet et en toute sécurité. L'idée est de construire une société numérique propice au développement de la femme et où elle n'est pas victime des harcèlements physiques et psychologiques. Liliane Charanguza renforce les capacités des femmes en sécurité numérique.
Nous avons pris des engagements selon lesquels nous allons chaque fois être, je ne dirais pas des observateurs, mais nous allons veiller à ce que tout le monde se sente à l'aise sur les réseaux, notamment les femmes. Après cette activité, nous avons créé un groupe des champions. Et là, pour travailler en réseau, pour signaler par exemple les comptes des harceleurs, signaler le contenu qui harcèle les femmes sur les réseaux.
La journaliste Chantal Kahashi fait partie des femmes formées en sécurité numérique par Liliane Charangouza. Elle explique que la dite formation lui a permis de comprendre ce que sont les violences basées sur le genre sur Internet et comment y faire face. Elle avoue en avoir été victime.
On a été un jour victime de ça. C'est pas même une fois, c'est plusieurs fois. Mais grâce à cette formation, nous avons appris comment on peut lutter contre ces genres de violences basées sur les gens en ligne. On nous a appris comment sécuriser nos éléments, comment utiliser nos réseaux sociaux avec prudence pour que nous ne puissions pas tomber dans des pièges des personnes mal intentionnées.
De son côté, la blogosphère gomatracienne, une structure des jeunes blogueurs de Goma, dit se réjouir des résultats de ses formations. Son coordonnateur adjoint, Innocent Boutchou, explique pourquoi il était important de sensibiliser les femmes sur le numérique.
Nous devons nous tous nous liguer pour combattre toutes ces formes de violences basées sur le genre qu'on voit en ligne. Donc, qu'on arrête de ramener à chaque fois la femme, certains hommes par manque d'arguments dans des histoires de beauté et tout. Donnons la chance à la femme de se battre au même titre que les hommes.
Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, les petits entrepreneurs saisissent de plus en plus les opportunités de financement offertes par Proparco, une filiale de l'Agence française de développement. Des projets de production et de transformation agricole sont parmi les bénéficiaires, dont de nombreuses femmes actives dans le domaine de l'agroalimentaire. Un reportage d'Emmanuel Juntap.
René et deux de ses employés s'affairent dans un champ de poivre à Lomou, localité située non loin de Douala. Pour se lancer dans cette activité agricole, René a obtenu un financement bancaire. Il emploie aujourd'hui 6 personnes à plein temps.
Je suis allé à CEP, j'ai fait le prêt de 2 millions pour compléter et acheter. Bon, c'est ça qui m'a permis de mettre le culture à long terme, puisque du moment où je louais, je ne pouvais pas mettre le culture à long terme.
Autre localité non loin de Douala, Victorine Kiesse s'est investie dans la production de l'huile de palme grâce à 2 crédits successifs d'une valeur de 5 millions de francs CFA.
I am operating with oil business.
Je fais l'activité d'huile de palme. J'ai un pressoir, j'ai aussi mes plantations où je récolte les noix et il y a aussi les clients qui viennent presser l'huile ici et ils me payent. Ils payent pour l'utilisation de la machine, du pressoir.
À 105 km de Douala, ce champ d'ananas s'étend aujourd'hui sur 5 hectares grâce à un accompagnement financier. Il y a 5 ans, l'investisseur faisait ses premières cultures sur 1 hectare.
Au-delà de l'accompagnement proprement dit qui est apporté un souffle en capital ou bien accompagner le client sur le volet capital ou bien sur le volet financier, nous essayons de l'accompagner sur le volet éducation financière. Qu'il sache quand on prend un crédit, voilà un peu comment est-ce qu'on peut se comporter pour respecter les échéances et être éligible pour être accompagné une autre fois.
Près de 2000 entreprises ont été financées entre 2019 et 2020 à travers l'initiative Choose Africa de Proparco. Dans sa nouvelle stratégie, Proparco entend consacrer 2,5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années aux pays africains.
On va avoir, par exemple, plus d'appétit au risque sur ce qu'on appelle les PME, TPE à impact. J'entends sur les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, sur le secteur agricole et agroalimentaire, et également sur deux types de publics, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Et on va de la même manière avoir aussi un appétit au risque supérieur sur certaines géographies ou certains pays.
Proparco a également annoncé qu'un montant de 30 millions d'euros sera alloué aux startups innovants en Afrique entre 2023 et 2027. Emmanuel Junta, VOA Afrique, Yaoundé.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.